Candide et les experts. Une émission produite par Monique Fauché.
Bonjour Jean Viratel.
Bonjour Monique.
Voilà, depuis quelques semaines, nous parlons de train, de sa création, de son invention, de tout ce qui touche au train, que ce soit évidemment technique, mais également en matière d'hommes, de ceux qui y travaillent, en matière d'ouvrages d'art, et toute cette évolution que l'on peut constater. Ce n'est pas si vieux dans le fond, c'est pas, nos grands-parents ont connu les premiers trains.
Arrière-grands-parents, hein, 1820.
Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, il y a toutes sortes de trains. Alors, il y a les trains mythiques. Qu'est-ce qu'on peut entendre par trains mythiques?
Les trains qui ont été portés dans la littérature, dans les
Agatha
films,
Christie,
etc.
Par exemple.
Oui, l'Orient Express. C'est ces trains-là. Quoi.
Oui, alors, ce sont des trains luxueux en règle générale.
À l'époque, c'était des trains luxueux.
Et chers, même maintenant.
Et chers. Maintenant, si vous prenez le transsibérien, enfin, je ne sais pas s'il existe encore, mais le transsibérien, c'était devenu un train, tout ce qu'il y a d'ordinaire.
Oui, hein, ouais. Avec le samovar au bout du wagon.
Oui, bon, voilà, oui, c'est tout.
Mais quand même, sinon, il y a le train en Espagne, il y a un très beau train, je crois, en Angleterre aussi.
Ah oui, alors ça, c'est des trains, je dirais, trains croisières. De luxe, mais pour faire une croisière. Oui. Ce n'est pas des trains pour faire un parcours. C'est des trains qui qu'on va utiliser pendant... On va passer une semaine à bord, pratiquement, entrecoupé de visites, comme une croisière. Hein. Alors, il y en a un dans le nord de l'Espagne. Hein, dans le sud, c'est l'Andalus Express. Et dans le nord, c'est le Cantabric Express. Et c'est des trains vraiment hyper luxueux qui font une tournée de 5-6 jours entrecoupée de visites. C'est des trains croisières. Oui. Et ça existe un peu dans le monde entier, ce genre de train.
Et souvent assez cher.
Voire très cher.
Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai vu. Je m'étais renseigné. Oui, alors donc, dans le monde entier, vous dites, il y a des...
Il y en a en Australie, il y en a en Inde avec des trains de Maharaja, par exemple. Il y en a aux États-Unis, il y en a sur différents continents. Enfin, bon, il n'y en a pas des dizaines et des dizaines, mais il y en a un peu.
Alors, il y a aussi des petits trains, qui font partie des campagnes, de la campagne, et en montagne également.
Oui. Alors, des petits trains qui faisaient partie des campagnes, mais qui, en France, ont pratiquement tous disparu. Puisque, à une époque, fin 19e, il y a eu un plan Freycinet, un ministre, qui voulait que toutes les sous-préfectures aient leur ligne de chemin de fer, voire après les chefs-lieux de canton. Donc, on avait fait créer, avec des initiatives départementales, voies ou privées éventuellement, des trains de desserte locale, et souvent de construits de façon économique, en bordure de route, par exemple. C'était assez fréquent. Il y a, par exemple, il y avait des gares à Toulouse spéciales pour ces petits trains. La gare Roguet, par exemple, à Saint-Cyprien, qui n'existe plus du tout, avait le départ de trains qui allaient vers le Gers, qui allaient dans le sud de la Haute-Garonne, etc.
Mais alors maintenant, Jean Viratel, il y a des petits trains dans la région que l'on peut prendre. C'est des trains d'agrément, je dirais.
Ah, trains touristiques.
Alors, quels sont ces trains-là?
Il y en a, mais pas beaucoup.
Je peux citer le
plus près de Toulouse, le petit train du Tarn à Saint-Lieu-les-Lavaures, près de Giroussens.
Près de Giroussens.
Ouais.
Après, il y a le train jaune.
Alors le train jaune, au départ, ce n'était pas un train touristique. C'est devenu, en gros, un train touristique. Mais il fonctionne toute l'année. Il transporte les gens de la Cerdagne vers
direction
de Perpignan.
Et qu'on peut
prendre n'importe quand. Alors, soit si on peut utiliser le grand train de Perpignan à Villefranche-de-Conflans, le train jaune de Villefranche-de-Conflans à la Tour de Carole, qui est également desservie par la ligne de Toulouse à Foix et la Tour de Carole.
Oui.
Alors, ce train jaune, c'est devenu un train mythique parce qu'on a gardé le matériel d'origine qui plaît énormément aux touristes, en particulier avec ces wagons sans toit, ces wagons découverts, qui permettent d'attraper des fabuleux coups de soleil en été.
On sent rouge écarlate du voyage. Évidemment, il y a également des trains de très longs parcours. Bon, vous parliez tout à l'heure du transsibérien. J'imagine que c'est quand même des voyages.
Oui, c'est le plus long. Ouais.
Très long. Des trains en très haute altitude. Alors, en Argentine, par exemple.
Effectivement, oui. En Argentine, ils montent à plus de 4000 mètres d'altitude.
Avec bouteilles d'oxygène.
Alors,
pour
effectivement, pour les voyageurs qui ne sont pas accoutumés à l'altitude, il est prévu une infirmière et une infirmerie avec des bouteilles d'oxygène pour réconforter les voyageurs défaillants. Mais le plus haut au monde, c'est maintenant en Chine, le train qui monte à Lhasa. Ah. À plus de 5000 mètres d'altitude.
En fait, ils ne vont pas faire un pèlerinage. Ils ont pas fait... Non, c'est plutôt pour mettre aux normes.
Ouais, plutôt. Ouais.
Ah oui, je pense. Alors, évidemment, on peut parler des trains de pèlerinage.
Ah, effectivement, oui. Alors, les trains de pèlerinage, comment ça a démarré, ça? Eh bien, lorsque les apparitions de la Vierge ont eu lieu à Lourdes, l'année exacte, 1800, je ne sais plus, 50 et quelques, une ligne était en construction entre Toulouse et Bayonne. Et il fallait relier Tarbes à Pau. Donc le tracé prévu allait tout droit de Tarbes à Pau. Et lorsque les apparitions ont eu lieu, très vite, il y a eu des pèlerinages qui ont été organisés, qui se faisaient... à pied, à cheval, etc. Mais le directeur des chemins de fer du Midi, qui pourtant n'était pas chrétien, s'est dit « Oh, mais là, il y a des gens à transporter. Allez, on va faire passer la ligne par Lourdes. » Donc, on peut dire qu'un miracle, la Vierge a dévié une ligne de chemin de fer. Non, c'est pas reconnu par l'Église. Alors ensuite, bien sûr, les trains de pèlerinage. Alors, les trains de pèlerinage de toute la France affluaient vers Lourdes, également d'Italie, voire d'Allemagne. On a compté au maximum jusqu'à 800 trains de pèlerinage dans une année à Lourdes. Ouais. Donc, ce qui nécessitait des moyens de garage.
Très particulier, certainement adapté.
Équipé, oui, avec des wagons ambulances, hein, on peut dire carrément. Certains étaient peints en blanc avec une croix rouge. Et puis des wagons couchettes, etc. C'était très, très, très organisé, oui. Ouais. Et puis maintenant, bon, bah, les autocars et les avions ont pris le dessus.
Mais enfin, je crois qu'il y a encore des trains.
Ça arrive, oui, monsieur.
Oui, on pensait que ça perd. Ouais. Alors, ben, justement, on peut parler de l'avenir, puisque à un moment donné, on craignait que les trains disparaissent au profit des cars. Bon, c'est vrai qu'il y a disparition des wagons-lits, des wagons-restaurants, etc. Des gardes parières, des gardes parières.
Ah oui, ça oui. Ah,
mais qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Alors. En fait, pour vous, l'avenir, vous le voyez comment? Pas sombre, j'espère.
Alors, l'avenir, tout dépend de la transition écologique qu'on fera. Parce que le train a énormément d'atouts dans le cadre de cette transition écologique. Déjà, on dit qu'il ne faut plus artificialiser les sols. Il faut savoir qu'une voie ferrée, une ligne de chemin de fer, utilise beaucoup moins d'espace pour transporter autant de marchandises ou de voyageurs qu'une autoroute. Beaucoup moins d'espace. Et même que l'avion, du fait de la surface des aéroports. Donc c'est économe en surface de terrain. Donc c'est intéressant. Ensuite, sur le plan énergétique, le train est imbattable, puisque le roulement de roues d'acier sur un rail d'acier... consomme très peu d'énergie par rapport à la route, puisque le pneu induit des frottements et donc consommation d'énergie. Le train, en plus, est très long par rapport à sa largeur, en général, donc l'effet aérodynamique est nettement meilleur. Donc il a plein d'atouts sur le plan de l'espace, de l'énergie, et puis le train peut utiliser toutes sortes d'énergie. L'électricité, mais l'électricité, c'est une énergie transformée. Donc, on peut faire de l'électricité avec n'importe quelle énergie primaire.
Oui, mais alors, est-ce qu'on n'a pas besoin pour cela de métaux ou de terres que l'on ne trouve pas forcément en France, mais dans d'autres pays qui sont en ébullition particulièrement en ce moment?
Alors, c'est le problème des batteries pour les trains à batterie. Oui. Mais les trains avec batterie, ce sera réservé aux petites lignes sur lesquelles on ne va pas installer une caténaire comme les grandes lignes. Donc, c'est quand même assez marginal.
Bon, donc, on va dire que le train a de l'avenir.
A de l'avenir, oh oui, c'est sûr, si on fait une transition énergétique, écologique et vigoureuse.
Voilà. Bon, un grand merci Jean Viratel pour toutes ces informations. Et si nos auditeurs ont des questions supplémentaires à poser, je vous les transmettrai avec plaisir.
Ah bah oui, pour moi aussi, ce sera un grand plaisir.
Merci. Au revoir, merci.
Au revoir, ne déraillez pas non plus.
Voilà.